Alors nous allons poursuivre notre étude de la somme théologique de saint Thomas par les questions qui traitent de la résurrection. Il y a quatre questions qui vont être traitées par saint Thomas sur la résurrection. Tout d'abord, la nécessité de la résurrection. Était-il nécessaire que notre Seigneur ressuscitât? De la même manière qu'on avait vu, était-il nécessaire que notre Seigneur souffrît sa passion? Ensuite, après la nécessité, eh bien, les qualités de notre Seigneur ressuscité. Et là, normalement, toute cette étude porte sur le fait que notre Seigneur a un vrai corps, mais en même temps un corps spirituel. Alors comment un corps peut être à la fois réel, palpable, en étant à la fois spirituel? Donc c'est ce que nous verrons. On verra que c'est un vrai corps, mais qu'il a malgré tout, c'est un corps qui est spirituel, qui n'est pas uniquement matériel, au moins au sens où nous l'entendons nous-mêmes. Ensuite, la question suivante portera sur la manifestation de la résurrection. Donc, c'est sur le fait que notre Seigneur est apparu donc à plusieurs de ses apôtres et disciples. Et puis enfin, la dernière question, qui sera plus brève, portera sur la résurrection du Christ considérée comme cause de la nôtre. Donc, le lien qu'il y a entre la résurrection de notre Seigneur et notre propre résurrection. Ça représente en tout 16 articles. Puisque chacune des questions se subdivise en articles. Alors nous commençons. Première question donc sur la résurrection de notre Seigneur. Tout d'abord, était-il nécessaire que le Christ ressuscitât? Comme toujours, deux séries d'arguments. Le premier, plus simple, qui est un argument d'autorité. Donc Dieu a dit que, donc ça s'est passé comme cela. Deuxième série d'arguments, là, ce sont des arguments de convenance qui montrent que le bon Dieu fait tout avec sagesse, et ordre et mesure. L'argument le plus important étant toujours l'argument d'autorité. Le bon Dieu étant beaucoup plus intelligent que nous, sait mieux que nous ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Alors, sur cette nécessité, un argument qui tirait de la Sainte Écriture, dans Saint Luc, « Il fallait, dit l'Écriture, que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts. » Il fallait. Donc si la Sainte Écriture dit qu'il fallait, c'est qu'il fallait. Alors maintenant, les arguments de convenance. Donc là, c'était Saint Luc, le dernier chapitre, verset 26. Donc pour quel motif était-il nécessaire que notre Seigneur ressuscitât? Premier motif que donne saint Thomas, pour manifester la justice de Dieu, à qui il appartient d'élever ce qui s'abaisse à cause de lui. Et c'est vrai que ça fait partie des arguments qu'il avait déjà annoncés auparavant. Ce lien qu'il y a entre les humiliations de notre Seigneur et puis ensuite sa glorification. Celui qui s'abaisse sera élevé. Notre Seigneur ayant été humilié dans sa passion, devait être exalté par Dieu lui-même à travers sa résurrection. Donc ça, c'est le premier argument que donne saint Thomas. Deuxième argument, qui nous touche plus, bien sûr, parce que c'est plus direct par rapport à nous-mêmes, pour affermir notre foi à la divinité du Christ, qui, selon l'expression de saint Paul, crucifié à raison de l'infirmité de sa chair, vit néanmoins par la vertu de Dieu. Car, dit saint Paul, s'il n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine et votre foi le serait aussi. Et c'est vrai que, imaginons que notre Seigneur ne serait pas ressuscité, bien sûr, en ce moment-là, si tout s'était terminé à la passion, eh bien notre foi, bien sûr, serait vaine. Donc notre Seigneur, voulant montrer qu'il était vraiment Dieu, a voulu reprendre ce corps et le manifester à ses apôtres. Lien toujours, comme on l'a déjà vu maintenant, entre la foi et l'espérance. Notre Seigneur vient affermir notre foi par sa résurrection. Il vient aussi fortifier notre espérance. Lorsque nous voyons notre chef ressuscité, nous sommes portés à espérer que nous, qui sommes ses membres, nous ressusciterons à notre tour. Si l'on prêche, disait très bien l'apôtre, que le Christ est ressuscité d'entre les morts, se peut-il qu'il y en ait parmi vous qui ne croient pas à la résurrection des morts ? Donc là, c'est toute la, je pourrais appeler ça théorie, mais c'est plus qu'une théorie, c'est une réalité de ce lien qui existe entre notre Seigneur et nous-mêmes. Nous formons le corps, le corps mystique de notre Seigneur en tant que membre de l'Église. Là où la tête est ressuscitée, le corps doit l'être également. Donc ça, c'est le lien qui unit la tête qu'est notre Seigneur au corps que nous représentons, que nous formons. Et on connaît aussi ces paroles de Job, c'est intéressant, donc de l'Ancien Testament déjà, hein, Job qui a vécu dans l'Ancien Testament. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je ressusciterai moi-même au dernier jour. C'est l'espérance que je conserve dans mon cœur. » Dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25. Parole d'autant plus importante que, comme on l'avait déjà dit, je pense, la notion de résurrection dans l'Ancien Testament était beaucoup plus imprécise, beaucoup plus vague et beaucoup moins commune que maintenant. Notre Seigneur n'étant pas ressuscité, les Juifs attendaient un bonheur, mais un bonheur temporel. Parce qu'il y a encore deux arguments. Ensuite encore, quatrième argument que donne saint Thomas pour montrer la nécessité de la résurrection, qui est tiré aussi toujours de la même série d'arguments qu'on a déjà vu auparavant, pour donner un modèle à la vie des fidèles. Notre Seigneur est notre modèle, nous devons le suivre, et pour montrer ce que doit être une vie chrétienne, notre Seigneur a voulu passer par ce stade de la résurrection, afin que nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. La vie que notre Seigneur a donnée sur la croix symbolisait la mort, symbolisait les péchés. Et si notre Seigneur est mort au péché, nous devons aussi nous considérer comme mort au péché et vivant d'une vie nouvelle, de la vie de Dieu. Comme le Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire de son Père, ainsi nous devons marcher dans une vie nouvelle. Le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Regardez-vous aussi comme étant mort au péché et ne vivez plus que pour Dieu. Donc là, ce sont des citations de saint Paul que reprend saint Thomas. Et puis enfin, cinquième argument, pour compléter l'œuvre de notre salut. Donc il semblerait que l'œuvre de notre salut n'ait pas été complète sans cette résurrection. En effet, on peut dire que par sa passion, notre Seigneur nous a délivrés du mal, donc c'est la partie négative, et par sa résurrection, il nous a mérité une vie nouvelle, c'est la partie positive. Mais la partie négative ne servirait de rien sans cette partie positive. Donc les deux sont indissociables. Et là, saint Thomas cite à nouveau saint Paul qui disait « Livré pour nos péchés », donc sa passion est liée au péché, « il est ressuscité pour notre justification ». La justification, c'est donc le fait que nous acquérions ce titre d'homme juste par la vie de Dieu qui se trouve dans notre âme. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs donc comme réponse à une objection qu'il pose. L'objection était la suivante. Tout ce qui touche l'humanité est ordonné à notre salut. Or, la passion du Christ suffisait à notre salut, puisque par elle nous sommes délivrés de la peine et de la faute, comme on l'a déjà dit. Il n'était donc pas nécessaire que le Christ ressuscitât d'entre les morts. Donc l'objection dit, par sa passion et sa mort, notre Seigneur nous a délivrés du péché. Donc dans la mesure où il nous a délivrés du péché, eh bien, il n'y a pas besoin de résurrection. La mort suffit. Et la réponse qu'il fait, la passion du Christ a accompli notre salut à proprement parler en écartant les maux qui s'y opposaient, donc la partie négative, mais la résurrection l'a accompli en ouvrant la série des biens dont elle est le modèle. Partie positive, le fait que nous puissions aujourd'hui vivre d'une vie nouvelle par la vie de Dieu qui habite en notre âme. Donc tous ces arguments, donc pris les uns après les autres, montrent bien cette nécessité de la résurrection. Maintenant, la deuxième question, deuxième article dans cette question, porte sur le jour, le fait que notre Seigneur soit ressuscité le troisième jour. Donc, convenait-il que le Christ ressuscitât le troisième jour ? À nouveau, premier argument d'autorité tiré de la Sainte Écriture, voici ce qui était prédit. Le Fils de l'homme sera livré aux gentils, qui en feront un sujet de dérision, qui le flagelleront et le crucifieront, mais il ressuscitera le troisième jour. Saint Matthieu, chapitre 20, verset 19. Donc, puisque la Sainte Écriture le dit, c'est que c'était ce qu'il y avait de plus convenable. Alors maintenant, arguments de convenance qui sont développés. Puisque la résurrection devait contribuer à établir la foi à la divinité du Christ, elle ne pouvait pas être différée jusqu'à la fin du monde. Et elle ne devait pas non plus avoir lieu immédiatement après la mort du Christ, de peur que la vérité de son humanité ne fût révoquée en doute. Donc, l'argument est le suivant. Si notre Seigneur était ressuscité tout de suite, on aurait pu se dire, mais finalement, il n'est pas mort, puisque son corps apparaît tout de suite. Donc, on aurait pu penser que notre Seigneur n'était pas réellement mort. Donc, pour montrer qu'il est mort, il était nécessaire que notre Seigneur ne ressuscitât pas tout de suite. Maintenant, puisque la résurrection a pour but d'affermir la foi des apôtres, il était nécessaire qu'il apparaisse quand même assez rapidement. Il ne fallait pas attendre la mort du dernier des apôtres pour qu'il apparaisse, puisque les apôtres n'auraient pas pu aller évangéliser le monde. Donc, il était nécessaire qu'il reste le temps suffisant pour qu'on puisse être certain qu'une personne est bien morte, et 3 jours ça suffit largement, et puis ensuite il n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Donc c'est ce que dit saint Thomas. Alors, il y a maintenant quand même des objections, je vous en cite 2. Les membres doivent se conformer à la tête. Les membres, donc c'est nous-mêmes qui formons le corps de notre Seigneur en tant que membre de l'Église, et notre Seigneur forme la tête. Les membres doivent se conformer à la tête. Or, nous qui sommes les membres du Christ, nous ne ressuscitons pas le troisième jour après notre mort, mais notre résurrection est différée jusqu'à la fin du monde. Il semble donc que le Christ, notre tête, n'aurait pas dû ressusciter le troisième jour, mais que sa résurrection eût dû être retardée jusqu'à la fin du monde. Donc, vu le lien qu'il y a entre les membres et la tête, puisque nous-mêmes, nous attendrons la fin du monde pour ressusciter, notre Seigneur aurait dû aussi attendre la fin du monde. C'est ce que dit l'objection. Et la réponse qu'il fait, c'est de montrer la supériorité de la tête sur les autres membres. La tête et les membres sont conformes en nature, mais non en puissance, car la puissance de la tête est plus forte que celle des membres. Aussi, pour démontrer l'excellence de la puissance du Christ, convenait-il que le Christ ressuscita le troisième jour, tandis que notre résurrection est différée jusqu'à la fin du monde. Donc cela montre la priorité de la tête sur le reste du corps, et la puissance de la tête par rapport au corps, aux membres du corps. Deuxième objection, dans les actes des apôtres, saint Pierre dit qu'il était impossible que le Christ fût détenu par l'enfer et par la mort. C'est donc le jour même de sa mort que le Christ aurait dû ressusciter, et non le troisième jour. Surtout que la glose citée à l'article précédent, remarque qu'il n'y aurait eu aucune utilité dans l'effusion du sang s'il n'était pas ressuscité aussitôt. Donc là, c'est l'argument inverse qui semble dire que notre Seigneur aurait dû donc ressusciter tout de suite. Et l'argument, c'est un petit peu ce que je vous ai un petit peu donné tout à l'heure déjà dans la réponse à l'article, c'est qu'en ressuscitant le troisième jour, il est ressuscité presque aussitôt. C'est un petit peu ce qu'il dit. Et surtout, il insiste ici sur l'aspect de la liberté, à savoir que notre Seigneur n'a pas été détenu par la mort comme s'il était mort sans pouvoir faire autrement, mais c'est librement qu'il a donné sa vie, et c'est librement ensuite qu'il l'a repris. Donc là, c'est ce qu'il dit ensuite dans la réponse. Toute détention implique une violence, et notre Seigneur donc n'a pas eu cette violence. Or, le Christ n'était nullement détenu par la mort, mais il restait libre parmi les morts. S'il est demeuré quelque temps dans la mort, ce ne fut donc pas comme un détenu, mais de son plein gré, aussi longtemps qu'il le jugea nécessaire à l'instruction de notre foi. Or, ce qui se fait à bref intervalle est censé se produire tout de suite. Donc ici, c'est intéressant comme argument, parce que ça montre toujours cette liberté que notre Seigneur a eue tout le temps de sa vie, au moment même de sa mort, comme on avait vu par le grand cri qu'il a poussé avant de mourir, montrant qu'il était vraiment maître de lui, et puis qu'on retrouve ici même une fois qu'il est encore descendu aux enfers. Après, c'est un côté symbolique dans les objections. À nouveau, le saint Thomas précise qu'il est mort le soir pour marquer qu'il allait détruire les ténèbres du péché, mais qu'il est ressuscité le matin pour signifier qu'il nous ouvrait l'entrée dans la gloire. Donc, c'était l'apparition d'une nouvelle vie, comme le matin qui chasse les ténèbres. Autre question, le Christ est-il le premier qui soit ressuscité? Alors, il y a une distinction que va faire saint Thomas. Donc, il va dire oui sous un certain rapport et non sous un autre. Et pour ça, donc, il y a une distinction qu'il est nécessaire de comprendre. La résurrection est le retour de la mort à la vie. Or, on peut être arraché à la mort de deux manières. Premièrement, en recommençant à mener sa vie dans les mêmes conditions que jadis après avoir subi la mort. Comme Lazare, par exemple, quand il est ressuscité, bien, il a repris ensuite la vie qu'il menait auparavant. Donc, c'est ce premier mode. Deuxièmement, en étant délivré non seulement de la mort, mais même de la nécessité, et qui plus est, de la possibilité de mourir. Et c'est évident que c'est selon ce second mode que notre Seigneur est ressuscité. Et tel, donc la deuxième exemple, telle est la vraie et parfaite résurrection. Car aussi longtemps que l'on vit soumis à la nécessité de mourir, l'on demeure dominé en quelque façon par la mort. Selon la parole de l'Épître aux Romains, le corps est mort à cause du péché. Ben oui, quand on sait qu'on doit mourir une deuxième fois, on est encore soumis à la mort. De même, pouvoir être, ce n'est être que d'une manière relative, c'est-à-dire en puissance, par où il est clair que la résurrection, en vertu de laquelle on n'est arraché qu'à la mort actuelle, est une résurrection imparfaite. Donc le premier type de mort, le fait de ressusciter, mais de reprendre une vie terrestre et charnelle, en quelque sorte, c'est une résurrection imparfaite. Ainsi donc, si l'on parle de résurrection parfaite, donc maintenant le deuxième mode, le Christ est le premier des ressuscités, car en ressuscitant, lui-même est parvenu en premier à la vie pleinement immortelle. D'après ce texte de l'Épître aux Hébreux, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Mais si l'on parle de la résurrection imparfaite, certains autres sont ressuscités avant le Christ, afin de montrer à l'avance, comme dans un symbole, sa résurrection à lui. Donc pourquoi tout ce développement? Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir répondre à une objection qui consistait à dire que saint Paul, à un moment donné, dans une de ses épîtres, dit que notre Seigneur est le premier-né d'entre les morts et le premier ressuscité. Donc il ne semblerait pas si on ne tenait pas compte de cette résurrection imparfaite. Alors maintenant, justement, les objections portées sur le premier type de résurrection que l'on a vu déjà dans l'Ancien Testament. Donc la question, le Christ a-t-il ressuscité en premier? Première objection, il paraît hasardeux de le dire, car dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée ont ressuscité des morts. Ce que constate l'Épître aux Hébreux, des femmes ont reçu leurs morts ressuscités par eux. Pareillement, le Christ, avant sa passion, a ressuscité trois morts. Le Christ n'est donc pas le premier des ressuscités. Et la réponse, donc, maintenant on la trouve, vous la trouvez vous-même, si vous avez compris donc le sens de cette distinction qu'a fait saint Thomas. Ceux qui ont été ressuscités dans l'Ancien Testament, ou ceux qui ont été ressuscités par le Christ, sont revenus à la vie, mais pour mourir de nouveau. Maintenant, il y a quand même une deuxième catégorie qui nécessite justement une deuxième objection. Entre autres miracles qui se sont produits lors de la passion du Christ, saint Matthieu raconte que les tombeaux s'ouvrirent et que de nombreux corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, au moment de la passion, des corps ressuscitèrent. Alors, la réponse qu'il donne ici, certains affirment qu'ils sont revenus à la vie pour ne plus mourir. Ce leur eût été en effet un plus grand tourment de mourir une seconde fois que de ne pas ressusciter. En ce sens, il faut entendre avec saint Jérôme qu'ils ne ressuscitèrent pas avant la résurrection du Seigneur. Aussi, l'évangéliste écrit-il, ils sortirent de leur tombeau après la résurrection du Christ et vinrent dans la cité sainte où ils apparurent à beaucoup. Donc ce second type des personnes qui sont ressuscitées, entre autres Saint Joseph par exemple, on pense que Saint Joseph faisait partie de cela, eh bien en fait ils sont ressuscités non pas les premiers mais après notre Seigneur. Donc notre Seigneur est bien ressuscité le premier à cette vie parfaite, cette vie immortelle. Et enfin, dans le dernier article de cette question, le Christ a-t-il été la cause de sa résurrection ? Argument d'autorité, « Personne ne me ravit l'âme, disait-il lui-même, mais je la quitte et je la reprends de moi-même. » Saint Jean, chapitre 10, verset 18. Et alors ici, Saint Thomas explique que notre Seigneur a bien été la cause de sa résurrection en raison de sa divinité. Le corps de notre Seigneur, dans son tombeau, était uni à la divinité. Et l'âme de notre Seigneur, aux enfers, était aussi unie à la divinité. Et en raison de ce lien très fort qu'il y avait entre le corps et la divinité, l'âme et la divinité, l'âme et le corps ont pu se réunir à nouveau. Donc cela ne venait ni de la puissance du corps en lui-même, ni de la puissance de l'âme en elle-même, mais du lien qui les unissait à la divinité. Donc voici Saint Thomas, le texte de Saint Thomas. La mort n'ayant séparé la divinité du Christ, ni de son corps, ni de son âme, par la vertu de sa divinité, a repris l'âme qu'il avait quittée, et l'âme a repris également le corps dont elle s'était séparée. En ce sens, il a été l'auteur de sa résurrection. Voilà pourquoi l'apôtre dit « Quoique le Christ ait été crucifié à raison de la faiblesse de la chair, il vit par la vertu de Dieu. » Alors, la première objection disait « Cela paraît impossible. » Donc, ça paraît impossible que notre Seigneur ait été la cause de sa résurrection. Lorsque l'on est ressuscité par un autre, on ne saurait être la cause de sa résurrection. Or, le Christ a été ressuscité par Dieu. Saint Pierre l'affirme. Dieu l'a ressuscité, brisant les douleurs de l'enfer. Et Saint Paul, Dieu qui a ressuscité des morts Jésus-Christ, rendra aussi la vie à nos corps mortels. Alors, la réponse consiste à dire que Dieu, il peut s'agir soit de la nature divine, ou soit même des personnes divines, mais la vertu du Père et la vertu du Fils, en tant que Dieu, sont aussi puissantes l'une que l'autre. Par conséquent, leurs actions sont identiques. La vertu divine du Père et du Fils, et leurs actions sont les mêmes. Ces deux propositions s'impliquent donc l'une l'autre, que le Christ était ressuscité par la vertu du Père, ou qu'il soit ressuscité par sa propre vertu. Donc dire que notre Seigneur est ressuscité par Dieu, c'est dire qu'il est ressuscité par lui-même, parce qu'il est Dieu. Et cela, c'est très important parce que quand on n'a pas fait d'exégèse, je dirais, ça peut parfois nous poser question. On lit le texte, on dit Dieu l'a ressuscité, donc c'est que le Christ n'est pas Dieu, parce qu'apparemment, s'il était Dieu, il aurait dû se dire il est ressuscité lui-même. Mais en réalité, dans la Sainte Écriture, il y a toujours des passages qui sont un petit peu cachés, mais en ce moment-là, certains passages s'expliquent par d'autres passages, mais les autres passages montrant bien que Jésus-Christ est Dieu, quand on dit « Dieu a ressuscité », c'est bien, cela peut très bien inclure notre Seigneur. Une autre objection disait « Comme le prouve Saint Jean Damascène, la résurrection est le fait non de l'âme, mais du corps que la mort abat. Or, le corps ne peut s'unir l'âme, qui est plus noble que lui. Ce qui a ressuscité dans le Christ n'a donc pas pu être la cause de sa résurrection. » Alors la réponse qu'il fait consiste à dire, comme je vous l'ai dit, c'est que ce n'est pas le corps qui l'a ressuscité, ni même l'âme, mais c'est la divinité qui était unie et au corps et à l'âme. Dans sa nature créée, le corps n'est pas plus puissant que l'âme du Christ. Il l'est pourtant selon la vertu divine. L'âme, à son tour, si on la considère unie à la divinité, est plus puissante que le corps dans sa nature créée. Voilà pourquoi le corps et l'âme se sont repris mutuellement, l'un l'autre, selon la vertu divine, mais non selon la vertu de la nature créée. En tant que nature créée, nous ne pouvons pas ressusciter. Une fois que notre âme sera séparée de notre corps, nous ne pourrons pas, par nous-mêmes, reprendre notre corps. Nous ne pourrons le faire qu'en vertu de l'aide de Dieu. au dernier jour. Ça va? C'est pas trop compliqué? C'est bon? Vous arrivez à suivre? Bon, eh bien alors nous continuons. Alors après cette, avoir vu la question de la nécessité de la résurrection, voyons maintenant l'étude un petit peu de ce corps de notre Seigneur qui apparaît à la fois comme un vrai corps et qui apparaît d'un autre côté comme étant un corps glorieux. Comment unir les deux? Première question, premier article dans cette question. Le Christ, après sa résurrection, a-t-il eu un vrai corps? L'argument d'autorité. Il dit à ses disciples qui, effrayés et troublés, croyaient après sa résurrection voir un fantôme, palpez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Il avait donc un corps réel, un corps de la même nature qu'auparavant, et non pas un corps fantastique. Sans cela, en effet, sa résurrection n'aurait pas été véritable. Donc, ce qui montre que c'est un vrai corps, c'est qu'on a pu le toucher, le voir et le palper. Malgré tout, il y a des objections. Comment le croire que notre Seigneur a eu un véritable corps? Un véritable corps ne peut être simultanément avec un autre dans un même lieu. Or, après la résurrection, le corps du Christ s'est trouvé simultanément avec un autre dans le même lieu, car il est entré chez ses disciples toutes portes closes. C'était le passage que nous avons déjà lu hier. Ainsi que le dit saint Jean, il semble donc qu'après la résurrection, le Christ n'a pas eu un véritable corps. Donc là, l'objection est de poids. Dire que notre Seigneur a un corps, et un vrai corps, un corps qu'on peut toucher, comment ce corps peut-il traverser les murs? Normalement, pour qu'il puisse traverser les murs, il faut qu'il y ait deux corps dans le même lieu, à savoir le mur et le corps de notre Seigneur. Et ça semble impossible. Donc le corps ne paraît pas réel. Alors la réponse. Saint Augustin rapporte dans un sermon pascal que certains se demandent si c'était un corps, si c'était le même corps qui avait été pendu à la croix et qui était ressuscité, comment put-il entrer les portes closes? Et il répond, si vous le comprenez, ce n'est plus un miracle. La foi commence là où la raison fait défaut. Donc là, il faut recourir au miracle. On ne peut pas faire abstraction du miracle pour expliquer la chose. Ailleurs, saint Augustin écrit, à la masse du corps où se trouvait la divinité, les portes closes, à la masse du corps où se trouvait la divinité, les portes closes n'ont pas opposé d'obstacle, car il put entrer sans les ouvrir celui dont la naissance avait laissé inviolée la virginité de sa mère. Donc, il fait appel à un miracle pour en expliquer un autre. De la même manière que la Sainte Vierge est demeurée vierge en mettant au monde l'enfant Jésus, de la même manière, notre Seigneur a pu entrer dans une pièce sans pour autant violer l'entrée de cette maison, la porte de l'entrée de cette maison. Saint Grégoire exprime les mêmes pensées dans une homélie de l'octave de Pâques. Deuxième objection, qui est intéressante aussi parce qu'elle nous aide toujours à préciser un petit peu la qualité de ce corps qu'a pris notre Seigneur après sa résurrection, et qui sera le modèle du corps que nous aurons nous-mêmes après la résurrection, au dernier jour. En outre, un véritable corps ne peut disparaître à la vue de ceux qui le regardent, sauf peut-être s'il se corrompt. Or, le corps du Christ, comme on le dit dans saint Luc, a disparu aux yeux des disciples qui le regardaient. Donc comment expliquer ce nouveau phénomène? Les disciples voient notre Seigneur, tout d'un coup, paf, ce corps disparaît. Donc le fait que ce corps puisse apparaître et disparaître, comment cela peut s'expliquer? Demandez peut-être au docteur Brugère, en tant qu'ophtalmo. C'est difficilement explicable pour un... On l'a dit précédemment, le Christ est ressuscité à la vie immortelle de la gloire. Or, telle est la condition du corps glorieux, qu'il soit spirituel, comme l'écrit saint Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire soumis à l'esprit. Le corps spirituel veut dire un corps soumis à l'esprit. Et donc, comme ce corps est totalement soumis à l'esprit, l'esprit peut faire en sorte que ce corps soit visible ou non visible, comme il le veut et quand il le veut. Pour que le corps soit entièrement soumis à l'esprit, il est requis que toute action du corps soit soumise à la volonté de l'esprit. D'après Aristote, la vision s'explique par un objet de l'action visible, La vision s'explique par une action de l'objet visible sur la vue. Voilà pourquoi quiconque a un corps glorifié possède en son pouvoir d'être vu ou de ne pas être vu, suivant son propre gré. Donc ce corps est un corps spirituel et totalement soumis à l'esprit. Donc si l'esprit désire que ce corps n'apparaisse pas, il n'apparaît pas. Question suivante. Article suivant. Le corps du Christ est-il ressuscité tout entier? Argument d'autorité. Les esprits n'ont ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Saint Luc, dernier chapitre, verset 39. Donc ça montre bien que notre Seigneur a eu des os et une chair après sa résurrection. Argument de convenance. La résurrection du Christ n'eût pas été parfaite si tout ce qui était tombé par la mort n'avait pas de nouveau reçu la vie. C'est pourquoi, ainsi qu'il a promis lui-même à ses disciples disant, « Aucun cheveu de votre tête ne se perdra. Sa chair, ses os, son sang, tous les éléments en un mot qui composent le corps humain ont dû, sans altération ni diminution, être réintégrés en lui par sa résurrection, dans laquelle il a certainement revêtu pour la vie immortelle le même corps qu'il avait pris dans sa conception pour la vie mortelle. » Donc cela tient à la perfection de cette résurrection. Notre Seigneur, voulant ressusciter parfaitement, il convenait qu'il retrouvât toutes les caractéristiques du corps qu'il avait auparavant. Il semble que non. Donc il semble que le Christ ne soit pas ressuscité dans son intégrité. En effet, la chair et le sang font partie de l'intégrité du corps humain. Le Christ ne semble pas les avoir eus, car il est dit dans la première épître aux Corinthiens, « La chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu. » Or, le Christ est ressuscité dans la gloire du royaume de Dieu. Il semble donc qu'il n'a eu ni chair ni sang. Saint Paul dit, « La chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu. » Le Christ est au ciel, il est dans le royaume de Dieu, donc il n'a ni chair ni sang. Alors la réponse ici, c'est que ce terme de chair et de sang ne sont pas à prendre à la lettre, mais sont en tant que symbole du péché. Quand on dit que les hommes spirituels ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu, on veut dire par là qu'ils ne sont pas nés d'un pouvoir humain, mais d'un pouvoir divin. Donc la chair et le sang sont ici symboles de péché. Donc en tant que symbole de péché, ils ne sont pas présents au ciel, mais en tant qu'ils sont créatures de Dieu, ils sont bien sûr transformés, et donc ils ont aussi une place au ciel. La chair et le sang dont parle saint Paul désignent non leur nature physique, mais d'après saint Grégoire, la faute dont ils sont le siège. Ou encore, d'après saint Augustin, la corruption à laquelle ils sont soumis. Celui-ci écrit en effet à consensus sur la résurrection de la chair, il n'y aura là ni corruption ni mortalité de la chair et du sang. Par conséquent, la chair, dans sa réalité physique, possédera le royaume de Dieu. Selon le mot du Seigneur en saint Luc, un esprit n'a point de chair ni d'os, comme vous voyez que j'en ai moi-même. Mais la chair sujette à la corruption n'entrera pas dans ce royaume. Aussi saint Paul ajoute-t-il aussitôt, après le texte cité, la corruption ne possédera pas l'incorruptibilité. Donc la chair et le sang ont leur place au ciel, en tant que nature physique, mais pas en tant qu'instrument du péché. Alors, autre objection qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a entraîné surtout des longues disputes entre les franciscains et les dominicains. Le corps du Christ qui est ressuscité est monté au ciel. Or, certaines églises conservent comme relique un peu du sang du Christ. Son corps n'est donc pas ressuscité dans l'intégrité de toutes ses parties. Si on a pu récupérer du sang du Christ et que ce sang est vénéré dans les églises, au moins ce sang n'a pas réintégré le corps de notre Seigneur, donc notre Seigneur n'est pas ressuscité, au moins intégralement. Il y a au moins une partie du sang qui n'a pas été unie à son corps. Alors la réponse que donne saint Thomas, la chair et le... Non, pardon, ça c'était... On l'a déjà répondu. Puisque tout le sang qui a coulé du corps du Christ appartenait à la réalité de la nature humaine, il est ressuscité avec le corps du Christ. La raison est la même pour toutes les autres parties du corps qui appartiennent à la réalité, à l'intégrité de la nature humaine. Quant au sang que certaines églises gardent comme relique, il n'a pas coulé du côté du Christ, mais miraculeusement, dit-on, d'une image du Christ que l'on avait frappé. Donc tout le sang qui aurait coulé du corps de notre Seigneur dans sa passion a réintégré ce corps à la résurrection. Alors la dispute qu'il y avait entre les franciscains et les dominicains consistait à savoir si ce sang qui avait coulé justement du côté de notre Seigneur et puis de ses plaies était ou non uni à la divinité. Nous avons vu tout à l'heure que la résurrection du corps a été possible parce que ce corps était uni à la divinité, de même que l'âme de notre Seigneur était unie à sa divinité. Donc le corps et l'âme, par leur puissance mutuelle, en tant qu'unis à la divinité, ont pu se réunir l'une à l'autre. Mais il y a la question du sang, parce que le sang fait aussi partie de l'être humain. Alors selon saint Thomas, le sang qui a coulé des plaies de notre Seigneur était aussi uni à la divinité. C'est-à-dire qu'on pouvait dire que c'était vraiment le sang, la divinité était présente dans ce sang. Et selon les franciscains, ce n'était pas le cas. Alors il y a eu de longues disputes qui a duré des décennies, et puis finalement le pape a imposé le silence sur ces questions. Donc on ne va pas ranimer des querelles. Mais bon, c'est pour vous dire que les objets de théologie, les questions sont rarement aussi claires qu'on peut le croire. Et donc il y a des questions qu'on appelle disputées, parce qu'elles entraînent non pas des disputes, mais des disputatio, donc disputes dans le sens latin, d'ordre théologique, sur des avis divers. Alors ensuite, le corps du Christ est-il ressuscité glorieux? Donc on voit que c'est un vrai corps, on voit que ce corps est ressuscité tout entier. Maintenant, l'aspect glorieux de ce corps. L'apôtre dit « Le Christ reformera notre corps humilié en le rendant conforme à son corps glorieux. » Philippiens, verset 3, chapitre 3, verset 21. Donc en le rendant conforme à son corps glorieux, c'est donc que son corps est glorieux. Quelles sont les raisons qu'il donne de convenance? Trois raisons. Tout d'abord parce que sa résurrection est la cause et le type de la nôtre, et que nous-mêmes nous savons que nous devons avoir un corps glorieux, donc notre Seigneur aussi devait avoir un corps glorieux. La cause étant toujours supérieure à l'effet et le modèle à la copie, il faut que le corps du Christ soit ressuscité glorieux. Puisque les corps des saints sont glorieux, comme dit saint Paul, ce qui est semé dans l'ignominie ressuscitera dans la gloire. Deuxième argument, le Christ avait mérité par les abaissements de sa passion la gloire de sa résurrection. Donc argument qu'on avait déjà vu, qui portait sur l'argument de convenance sur la résurrection elle-même. Maintenant, ce même argument est utilisé pour voir le caractère glorieux de cette résurrection. Et puis enfin, troisième argument, il faut savoir que l'âme de notre Seigneur, quand il avait son corps terrestre, appelons-le comme ça, avant sa résurrection, eh bien, son âme était unie à son corps, bien sûr, mais la divinité et la force de cette âme ne rejaillissaient pas sur ce corps. Mais normalement, notre Seigneur étant vrai Dieu et vrai homme, la divinité aurait dû rejaillir sur le corps. Si bien que le mystère de la transfiguration n'est pas à proprement parler, un miracle, mais la suspension d'un miracle. Notre Seigneur aurait dû toujours se manifester dans une certaine gloire, puisque en tant que Dieu, cette divinité aurait dû rejaillir sur l'humanité. Donc ce n'est que par condescendance par rapport à nous-mêmes que notre Seigneur avait caché les reflets de sa gloire lorsqu'il est venu sur la terre, donc avant sa résurrection. Mais maintenant qu'il est ressuscité, justement, il a voulu que cette divinité puisse transparaître, au moins en partie, pas totalement non plus, parce que sinon on n'aurait pas pu supporter sa présence, mais au moins en partie, pour montrer justement cette gloire. Son âme, dit saint Thomas, possédait dès la conception la jouissance parfaite de la divinité. Mais par une disposition particulière de la sagesse divine, qui voulait l'accomplissement du mystère de notre rédemption, elle ne faisait point rejaillir sa gloire sur son corps. Il en dut être autrement à la résurrection. Elle put alors la communiquer au corps qu'elle reprenait, et ce corps ressuscita glorieux. Tout corps glorieux est incorruptible. Or, le corps du Christ ne semble pas avoir été incorruptible. On pouvait le toucher. Touchez et voyez, dit le Christ lui-même. Mais d'après saint Grégoire, ce qui se touche doit nécessairement se corrompre. Et ce qui ne se corrompt pas ne se peut toucher. Le corps du Christ n'a donc pas été glorieux. Donc comment unir le fait que le corps est un corps glorieux au fait que ce soit un corps qui soit palpable? Ce qui est composé devrait être palpé devrait se décomposer. Alors la réponse qu'il va donner ici, c'est que si ce corps est incorruptible, ce n'est pas en raison de la nature du corps lui-même, mais c'est en raison de l'âme et de la divinité qui est unie à ce corps. L'âme, après la résurrection, a une telle puissance sur le corps qu'elle empêche la corruption du corps. Donc l'incorruptibilité du corps ne vient pas du corps en lui-même, mais vient de l'âme bienheureuse qui spiritualise en quelque sorte ce corps et qui l'empêche de se corrompre. Après la résurrection, le corps du Christ était naturellement palpable. Et s'il n'avait eu que sa nature de corps humain, il eût été aussi corruptible. Mais il possédait quelque chose d'autre qui le rendait incorruptible. Non pas à la vérité une nature de corps céleste, comme le prétendent quelques-uns, mais la gloire qui rejaillissait de l'âme bienheureuse. Donc l'incorruptibilité du corps ne vient pas du corps lui-même, mais vient de l'âme une fois qu'elle s'est rapprochée de Dieu dans la gloire. Donc cette âme a une puissance qui est beaucoup plus forte que la nôtre sur le corps et qui empêche la corruption. Alors, si ce corps est glorieux, nouvelle objection qu'on peut se poser. Au témoignage de saint Paul, le corps glorieux n'est pas animal, mais spirituel. Or, le corps du Christ semble avoir eu encore la vie animale, puisque d'après saint Luc, le Christ a mangé et bu avec ses disciples. Il semble donc que le corps du Christ n'a pas été glorieux. Comment unir maintenant le corps glorieux avec la nourriture? Si ce corps est vraiment glorieux, comment se fait-il que notre Seigneur ait mangé? Or, au ciel, on n'aura pas besoin de manger. Donc, là encore, il y a une question qui se pose. Et la réponse qu'il va faire, c'est qu'il y a une distinction entre le fait de pouvoir manger et le fait de devoir manger. Être capable de manger ne signifie pas qu'on soit obligé de manger. Dans sa nature que notre Seigneur a prise après sa résurrection, il a conservé la capacité de se nourrir, mais ce n'était plus du tout pour lui une obligation. Il aurait très bien pu s'en passer. Et il prend ici une comparaison, donc saint Thomas, en faisant une analogie avec ce que l'on voit dans le domaine déjà naturel. Il dit « Ce n'est pas de la même manière que la terre assoiffée et le rayon de soleil brûlant absorbe l'eau. L'une c'est par besoin, l'autre c'est par puissance. » Donc si la terre assoiffée absorbe l'eau, c'est parce qu'elle en a besoin. Mais le rayon de soleil, lui, c'est parce qu'il en est capable. Mais ce n'est pas parce que le soleil ait besoin de l'eau pour se nourrir. Voilà. Et puis, ensuite, dans cette question, dernier article, c'est la question maintenant des cicatrices. Le corps du Christ a-t-il ressuscité avec ses cicatrices? A-t-il dû ressusciter avec ses cicatrices? Argument d'autorité, il est écrit que le Seigneur, s'adressant à Thomas, lui dit « Mettez là votre doigt et voyez mes mains. Mettez votre main dans mon côté et ne soyez pas incrédule mais fidèle. » Argument maintenant de convenance sur ces cicatrices. Si le corps de notre Seigneur est ressuscité avec ces cicatrices, ce n'était pas par impossibilité de les effacer. C'était, alors ici il va donner 5 arguments. Premièrement, pour garder à jamais les marques de son triomphe, puisque sa passion est bien glorieuse, a été l'occasion de son couronnement, donc de son triomphe. Donc il a voulu garder les marques de ce triomphe. Ensuite, deuxièmement, pour mieux inculquer à ses disciples la foi à sa résurrection, si jamais les cicatrices avaient manqué, les apôtres auraient pu se dire, c'est vrai que la voix paraît être la même, mais en réalité, est-ce bien lui, parce qu'il n'y a plus ses marques. Donc les marques rappelaient vraiment que c'était bien notre Seigneur. Ensuite, troisièmement, argument important et qui est très beau, pour présenter incessamment à son Père, dans les prières qu'il lui adresse en notre faveur, les marques du genre de mort qu'il a souffert. Notre Seigneur au ciel est notre avocat auprès de Dieu. Et en tant qu'avocat, eh bien, il présente justement ses plaies à Dieu son Père. Et lorsque Dieu le Père voit les plaies de notre Seigneur, il ne peut qu'exaucer son Fils en notre faveur. Et puis ensuite, les deux autres arguments. Notre Seigneur veut par là à la fois eh bien, manifester sa miséricorde en montrant ce qu'il a souffert pour nous à travers ses plaies, et il veut aussi montrer sa justice. Les damnés ne pourront pas dire que notre Seigneur n'avait pas fait pour eux tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu faire pour eux. Et par conséquent, ce sera bien de leur faute si, hélas, ils ont persévéré dans le péché. C'est ce que dit saint Thomas. Notre Seigneur a voulu conserver donc ces cicatrices pour rappeler à ceux qu'il a rachetés sa miséricorde et pour montrer enfin dans son dernier avènement la justice de ses arrêts contre les damnés auxquels il pourra dire « Voici l'homme que vous avez crucifié, voici les blessures que vous lui avez faites, reconnaissez le flanc que vous avez percé, par vous et pour vous ce cœur a été ouvert » et vous n'avez pas voulu y entrer. Alors, malgré tout, il y a des objections qu'il pose sur la question de ces cicatrices. Première objection. Il est dit, dans la première épître aux Corinthiens, que les morts ressuscitent incorruptibles. Or, les cicatrices et les blessures impliquent une corruption ou un défaut. Ne convenez donc pas que le Christ, auteur de la résurrection, ressuscita avec ses cicatrices. On imagine, nous, que suite à une opération, on est tout balafré, qu'après on a des cicatrices, mais on dit, on espère qu'au ciel, on n'aura plus ces marques. Or, le Christ les a gardées, donc c'est qu'apparemment, il y a un défaut en lui. Et la réponse à cette objection consiste à dire, les cicatrices qui sont restées dans le corps du Christ n'impliquent ni corruption ni défaut, mais marquent un plus grand cumul de gloire, car elles sont des signes de vertu, et une beauté spéciale apparaîtra dans les endroits de ces blessures. Ensuite, d'après saint Jean Damascène, deuxième objection, après la résurrection, le Christ a présenté certaines particularités afin de certifier que le corps qui avait souffert était le même qui était ressuscité, par exemple les cicatrices. L'effet cesse avec la cause. Il semble donc que lorsque les disciples furent certains de la résurrection, le Christ n'eut plus de cicatrices. Mais convenait-il à l'immortalité de la gloire que le Christ prit en lui ce qui ne demeurait pas toujours? Il semble donc que le Christ ne devait pas reprendre son corps avec ses cicatrices à la résurrection. Objection un peu complexe. Elle consiste à dire tout simplement que, d'un certain côté, ces cicatrices avaient pour but d'affermir la foi des apôtres. Une fois que la foi des apôtres est affermie, les cicatrices ne sont plus utiles, donc elles pouvaient être supprimées. Mais supprimer des cicatrices, ce serait entraîner un changement dans la gloire. Et dans la gloire, normalement, il n'y a pas de changement. Donc, d'un certain côté, comme ce n'était plus nécessaire de conserver les cicatrices, pourquoi les garder? D'un autre côté, pourquoi avoir ces cicatrices, puisque, au bout d'un certain temps, elles ne seront plus nécessaires? Donc, finalement, elles n'étaient pas nécessaires. C'est ce que dit saint Jean Damascène. Et la réponse qu'il fait, le Christ a voulu que les cicatrices de ses blessures demeurassent dans son corps, non seulement pour rendre certaine la foi de ses disciples, mais aussi pour les autres raisons qu'on a indiquées. Donc s'il n'y avait eu que cette raison-là, peut-être que notre Seigneur n'aurait pas eu ces cicatrices, mais comme il y a des tas d'autres raisons, eh bien ça suffit largement pour qu'il les ait conservées. Voilà. Alors maintenant, la manifestation de la résurrection. Donc là, ça concerne les différentes apparitions. Excusez-moi, le temps passe. Je vais essayer d'être plus bref. La résurrection du Christ a-t-elle dû être manifestée à tous les hommes ou seulement à quelques-uns en particulier ? Argument d'autorité. Saint Pierre disait aux Juifs, « Dieu a ressuscité celui que vous avez fait mourir, et il a voulu qu'il se manifestât non à tout le peuple, mais à des témoins choisis. » Donc l'argument d'autorité consiste à dire que notre Seigneur, comme dit Saint Pierre, donc Dieu a voulu apparaître à quelques personnes simplement. Et l'argument de convenance, qu'on a déjà vu dans la façon dont le bon Dieu dirige le monde, tel est l'ordre de la Providence que pour les vérités qui sont un don spécial de la grâce, Dieu les révèle immédiatement à des êtres supérieurs qu'il charge de les transmettre aux autres. La résurrection qui touchait à la vie future, puisque le Christ ressuscita dans la gloire, est de ce nombre. Elle devait être manifestée, non à tout le peuple, mais à quelques hommes en particulier, avec mission de la proposer à la foi de tous les autres. Donc le bon Dieu pourrait très bien, bien sûr, éclairer tous les hommes directement, mais dans l'ordre de sa providence, il convient qu'il utilise des hommes en particulier, ou des anges, pour servir d'intermédiaire entre lui et les autres êtres. Donc il y a toujours une hiérarchie. Qui dit ordre dit hiérarchie. Le bon Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça ce mythe de l'égalité, quand on suit la somme théologique, on ne peut pas être égalitariste, c'est pas possible. Puis quand on regarde l'univers, non. Mais voilà, donc on voit que le bon Dieu, eh bien, lui, il utilise une voie hiérarchique. Elle est supérieure et elle est inférieure. Et chacun a son rôle, chacun a sa mission. Argument d'autorité, cet argument qu'on vient de voir, l'objection, première objection. Comme la passion du Christ, sa résurrection est ordonnée à notre salut, selon la parole de saint Paul aux Romains. Il est ressuscité pour notre justification. Or, ce qui concerne l'utilité commune doit être signalé à tous. Il en est donc de même de la résurrection. L'objection consiste à dire, on est tous concernés par la résurrection, parce que nous sommes tous appelés à cette résurrection, donc notre Seigneur aurait dû le montrer à tous, et le manifester à tous. Et la réponse consiste à dire, oui, mais pas forcément immédiatement. Le bon Dieu utilise ses intermédiaires, qui justement, étant des intermédiaires, vont ensuite transmettre aux autres, donc tout le monde pourra être mis au courant de cette résurrection. La résurrection du Christ intéresse le salut commun de tous. Elle est donc parvenue à la connaissance de tous. Elle n'a pourtant pas été montrée à tous immédiatement, mais à certains qui en ont rendu à tous le témoignage. Alors après, tout un argument qui concerne les femmes. Alors je dis d'abord l'objection, après vous allez voir la réponse. Ceux à qui a été dévoilée la résurrection du Christ en ont ensuite été les témoins. Aussi lit-on dans les Actes des Apôtres, « Nous sommes les témoins de celui que Dieu a ressuscité des morts. » Ce témoignage, ils l'ont rendu en prêchant publiquement. Or, la prédication est interdite aux femmes. Que les femmes se taisent dans les assemblées, écrit saint Paul aux Corinthiens. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, prescrit-il encore à Timothée. » Ce fut donc mal à propos que la résurrection du Christ était manifestée aux femmes avant de l'être à tous en général. C'est ce que dit l'objection. Hein. Je n'ai pas donné la réponse. Réponse. La femme, on ne permet pas d'enseigner publiquement dans l'Église. Mais il lui est permis d'instruire en particulier sous forme d'admonition privée. Voilà pourquoi, comme le dit saint Ambroise, on envoie la femme à ceux qui sont de la maison. Mais on ne la délègue pas pour porter au peuple le témoignage de la résurrection. Ainsi donc, le Christ a apparu d'abord aux femmes, afin que la femme, qui la première avait porté à l'homme le principe de la mort, fût la première aussi à proclamer les débuts du Christ ressuscité dans la gloire. Aussi, saint Cyril écrit-il, « La femme qui avait été jadis l'instrument de la mort a perçu et annoncé la première le mystère de la vénérable résurrection. » Toutes les femmes ont donc reçu l'absolution de leur ignominie et obtenu la répudiation de la malédiction. Cela montre aussi que, à cause de leur sexe, les femmes ne souffriront aucun dommage au point de vue de l'état de la gloire. Mais si elles font preuve d'une plus grande charité, elles jouiront d'une plus grande gloire dans la vision de Dieu. Car les femmes qui avaient aimé plus étroitement le Seigneur, puisqu'elles n'avaient point quitté le sépulcre comme les disciples, furent les premières à voir le Seigneur ressuscité glorieux. Donc ça va? Vous êtes contentes? Ça commence mal, mais ça se termine bien. Alors sinon, il y avait un autre argument qui consistait à dire que si notre Seigneur était apparu d'abord à des femmes, c'était pour que la nouvelle se transmette plus rapidement. Article suivant. Aurait-il convenu que le Christ ressuscitât à la vue de ses disciples? Ce fut un ange qui dit aux saintes femmes, il est ressuscité, il n'est plus ici. Donc au lieu que ce soit le Christ lui-même qui ressuscita aux yeux des disciples, il a voulu que ce soit un ange qui serve d'intermédiaire pour annoncer la nouvelle au départ. Notre Seigneur, par sa résurrection, entrait dans la vie immortelle, glorieuse et conforme à celle de Dieu. Pour cette raison même, il n'eût pas été convenable que sa résurrection s'accomplît à la vue de ses disciples. Il était beaucoup plus que, suivant le principe invoqué plus haut, elle leur fut annoncée par les anges. Donc le bon Dieu utilise toujours des intermédiaires lorsque des nouvelles sont importantes. C'est pourquoi c'est un ange aussi qui était apparu, l'archange Gabriel, pour annoncer la mission de la Très Sainte Vierge et le mystère de l'incarnation. Ensuite, troisième article, le Christ, après sa résurrection, devait-il être continuellement avec ses disciples? 8 jours après, dit saint Jean, le Christ apparut à ses disciples. Il n'était donc pas continuellement avec eux. Alors ici, l'argument de convenance consiste à dire, le but, c'est de montrer que notre Seigneur est vraiment ressuscité. S'il était toujours apparu avec eux, on aurait pu se demander si son corps était vraiment un corps spirituel et s'il avait vraiment repris donc une autre vie. Et puis, s'il n'était pas apparu du tout, on aurait pu se demander s'il était aussi ressuscité. Donc, pour montrer d'un côté qu'il est ressuscité et d'un autre côté que la vie qu'il a prise est une vie qui est glorieuse, il a dû apparaître de temps en temps, mais pas tout le temps. Pour démontrer la vérité de sa résurrection, il suffisait au Christ de leur apparaître à plusieurs reprises, de converser familièrement avec eux, de manger, de boire en leur présence et de se laisser toucher de leurs mains. Pour manifester sa gloire, il ne convenait pas qu'il demeurât constamment avec eux, de peur qu'ils ne crussent qu'il était revenu à sa vie mortelle. Par conséquent, le Christ, après sa résurrection, ne devait pas être sans interruption avec ses disciples. Alors ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est le fait que notre Seigneur soit apparu d'une façon cachée, sous une forme étrangère, aux disciples d'Emmaüs. Et donc, le fait qu'il apparaisse d'une manière qui paraît fausse, eh bien, ça paraît un petit peu bizarre, parce qu'on dit « Dieu n'est pas menteur ». Donc comment se fait-il qu'il ne se fasse pas reconnaître qu'il apparaît sous une manière qui est étrange? Ça nous pose question. Argument d'autorité. Saint Marc dit, après cela, il se montra sous une forme étrangère à 2 disciples qui allaient au champ. Et la réponse est intéressante parce que justement, elle nous montre comment le bon Dieu agit avec chacun d'entre nous. La résurrection a dû être manifestée à la manière des choses divines qui nous le sont diversement selon nos dispositions à leur égard. Donc selon nos dispositions, la parole de Dieu peut nous frapper ou ne pas nous frapper, peut nous frapper plus ou moins en fonction et également du degré de charité ou des circonstances où nous nous trouvons. Et en effet, notre âme est-elle bien disposée? Elle les perçoit dans leur vérité. Est-elle mal disposée? Elle ne les voit qu'avec obscurité. L'homme charnel, a dit saint Paul, ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Et on le remarque nous-mêmes, c'est tout le mystère de l'aveuglement des hommes. Parfois, il y a des vérités qui sont éclatantes, mais les gens ne veulent pas la reconnaître parce qu'ils sont aveuglés. Cette observation nous explique pourquoi le Christ apparut tel qu'il était aux disciples disposés à croire et pourquoi il se montra sous une autre forme à ceux qui disaient avec une foi chancelante « Nous espérions pourtant qu'il rachèterait Israël ». Tel il était spirituellement dans leur âme, tel il se montra corporellement à leurs yeux. Il n'était pour leur foi qu'un étranger, il feignit d'aller plus loin comme un étranger. C'est pourquoi il faut la foi. Le Christ devait-il apparaître à ses disciples sous un autre aspect ? Donc maintenant, voyons les objections. La réponse semble négative. Seul ce qui est peut apparaître en réalité. Or, dans le Christ, il n'y a eu qu'un aspect extérieur. Si donc le Christ a apparu sous un autre aspect, cette apparition ne peut être que fictive et non pas réelle, ce qui est impossible, car saint Augustin dit « Si le Christ trompe, il n'est plus la vérité. Or, le Christ est la vérité. » Il semble donc que le Christ n'a pas dû apparaître aux disciples sous un autre aspect. D'après saint Augustin, tout ce que nous simulons n'est pas un mensonge. Vous retenez ? Tout ce que nous simulons n'est pas un mensonge. Il n'y a mensonge que lorsque nous feignons ce qui n'a aucune réalité. Lors donc que nos fictions ont un sens, ce ne sont pas des mensonges, mais des symboles. Autrement, tout ce que les sages et les saints, ou même Dieu, ont exprimé sous une forme figurée, sera tenu pour mensonge. Car selon le sens ordinaire, il n'y a pas de vérité dans ces symboles. À l'instar de ces fictions parlées, des faits peuvent être pris sans aucun mensonge pour symboliser une réalité. On vient de dire que c'est ici précisément le cas. Et puis une autre objection qui précise encore. Notre foi est rendue certaine par la Sainte Écriture. Mais la foi des disciples en la résurrection, ce sont les apparitions du Christ qui la certifient. Or, comme le dit saint Augustin dans son épître à saint Jérôme, si on accepte un seul mensonge de la Sainte Écriture, toute son autorité s'en trouve ruinée. Pareillement, si le Christ, en une seule de ses apparitions, a apparu à ses disciples autrement qu'il n'était, tout ce que les disciples ont vu dans le Christ après sa résurrection en sera infirmé, ce qui est impossible. Le Christ n'a donc pas dû apparaître sous un autre aspect. Donc c'est toujours la question du mensonge. S'il apparaît sous un autre aspect, c'est plus lui, donc c'est qu'il trompe, et le Christ n'est pas trompeur, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La réponse. La difficulté soulevée aurait quelque valeur si les disciples n'avaient pas été ramenés de cet aspect que le Christ avait pris d'un étranger à reconnaître sa véritable forme. Comme le dit saint Augustin, le Christ a permis que leurs yeux fussent ainsi retenus jusqu'au moment de la fraction du pain. La participation à l'unité de son corps a écarté l'obstacle par lequel leur ennemi les empêchait de reconnaître le Christ. Aussi saint Luc ajoute-t-il que leurs yeux s'étant ouverts, ils le reconnurent. Non pas qu'ils marchassent auparavant les yeux clos, mais il y avait comme un voile ou comme un brouillard qui ne leur permettait pas de reconnaître ce qu'ils voyaient. Donc il n'y a pas eu de mensonge dans le sens aussi donc, où il a fini par se faire reconnaître à eux après. Donc je vais terminer. La dernière question, on ne la verra pas parce qu'elle n'est pas très importante. Je vois juste les deux derniers articles de cette question. Le Christ a-t-il dû démontrer la vérité de sa résurrection par des arguments ? Donc maintenant, c'est le mode par lequel le bon Dieu s'est fait connaître à nous et la question des arguments qu'il a utilisés pour se faire connaître. Pendant 40 jours, il apparut à ses disciples, leur démontrant par beaucoup d'arguments qu'il était vivant et leur parlant du royaume de Dieu. Actes chapitre 1, verset 3. Démontrant par beaucoup d'arguments. C'est l'argument d'autorité. Alors la raison ici de cette question, c'est que d'un côté on va se dire, si on prouve la vérité de la résurrection par des arguments, eh bien en ce moment-là, où est le mérite de la foi si on arrive à prouver la résurrection? Et d'un autre côté, si on ne prouve pas la résurrection, comment savoir s'il est vraiment ressuscité? Donc d'un côté comme de l'autre encore, on se trouve face à une question. Donc voilà les réponses maintenant qui vont être faites. À partir d'une distinction, donc on pourra trouver la vraie réponse. Le mot argument signifie parfois une raison que l'on apporte pour démontrer une vérité auparavant douteuse et parfois un signe sensible qui a pour objet la manifestation d'un fait. Dans le premier sens, donc dans le sens de prouver une vérité auparavant douteuse, le Christ n'a pas dû démontrer sa résurrection par des arguments, c'est-à-dire par des preuves tirées de la raison humaine, dont elle dépassait la sphère. On ne peut pas prouver par des arguments rationnels ce qui est au-delà de la raison, et ce qui est de la foi est au-dessus de la raison. Mais il l'a prouvé par l'autorité des Saintes Écritures, fondement de la foi, quand il a dit « Ne fallait-il pas que tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes s'accomplit ?» Donc les preuves ne sont pas des preuves d'ordre rationnel, c'est des preuves qui sont tirées de l'argument de l'autorité. Parce que l'argument d'autorité est encore le plus fort. La Sainte Écriture, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, ça devait se passer comme ça, ça s'est en effet passé comme ça, donc c'est que ça vient de Dieu. La prophétie s'est réalisée, c'est que ça vient de Dieu. Ne fallait-il pas que tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes ou dans les prophètes s'accomplit ? Dans la seconde acception, donc signe sensible qui a pour objet la manifestation d'un fait, on peut dire qu'il démontra par des arguments ou en d'autres termes par des signes évidents qu'il était vraiment ressuscité. Il fit valoir ce genre de preuve pour un double motif. Premièrement, à cause du peu de disposition qu'il trouvait dans ses disciples pour la foi à ce mystère. Donc là, les signes sensibles, c'est justement le fait qu'il se donne à toucher, à voir, qu'il mange devant eux, qu'il y a des tas de témoignages qui manifestent qu'il est vraiment ressuscité et que c'est vraiment lui. Alors pourquoi cela ? Tout d'abord à cause du peu de disposition donc des apôtres qui étaient complètement abattus après la Passion. Et de là le reproche qu'il leur adressait, « Ô homme aveugle et dont le cœur est lent à croire ». Et deuxièmement, afin que leur témoignage, appuyé sur les signes qui les avaient frappés, fût plus efficace lorsqu'ils pourraient s'exprimer ainsi. « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, voilà ce que nous vous attestons. » Donc c'était nécessaire à la fois pour les apôtres, parce qu'ils n'étaient pas disposés à croire à la résurrection, et c'était nécessaire aussi pour nous, parce que les apôtres, pour nous convaincre, nous disent « C'est nous qui l'avons vu, c'est nous qui l'avons touché. » Donc nous savons très bien ce que nous vous disons. Et c'est l'argument beaucoup plus fort que « Oui, il semble que, quelqu'un a dit que. » Ce serait un argument qui serait bien sûr beaucoup moins efficace. « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, voilà ce que nous vous attestons. » Première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Voilà. Donc là, je passe les objections, tant pis. Et on voit juste le dernier article. Donc. Les preuves données par le Christ ont-elles suffisamment démontré sa résurrection ? Donc on a vu qu'il était nécessaire qu'il donne des preuves. Ces preuves sont tirées de la Sainte Écriture. Ces preuves, c'est encore les preuves sensibles, donc le fait qu'on ait pu le voir, l'entendre, le toucher, le voir et l'entendre parler, le voir manger, etc. Est-ce que ces preuves ont été suffisantes ? Alors voyons justement quelles ont été ces preuves à nouveau. Notre Seigneur a démontré sa résurrection par des témoignages et par des signes également irrécusables. Les témoignages sont en premier celui des anges qu'il annoncèrent aux saintes femmes, ainsi que le rapportent les quatre évangélistes. En second lieu, celui des Écritures. Donc on a le témoignage des anges, celui des saintes femmes et celui ensuite des saintes Écritures. Ensuite, les arguments maintenant. Les arguments ou signes sensibles furent pris de son corps et de son âme. Et là, on voit que pour bien montrer qu'il avait vraiment un corps humain, il a utilisé justement tous les éléments et de la vie nutritive, et de la vie sensitive, et de la vie intellectuelle, et pour montrer qu'il était Dieu et de la vie divine. Il fit toucher son corps à ses disciples en leur disant « Touchez et voyez, car les esprits n'ont ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Preuve qu'il avait un corps vrai, palpable, et non un corps fantastique. Il se montra à eux avec tous ses traits, leur permettant de le contempler à loisir. Il fit voir que son corps était numériquement le même qu'auparavant, en dévoilant les cicatrices de ses plaies. « Voyez mes mains et mes pieds, leur disait-il, et reconnaissez-moi. » Les preuves tirées de son âme n'étaient pas moins fortes. Il mangea et but avec ses disciples, œuvre de la vie nutritive. Il mangea et but avec eux. Il répondit aux questions qu'on lui adressa et salua ceux qui étaient présents, œuvre de la vie sensitive. par laquelle il montrait qu'il possédait les sens de l'ouïe et de la vue, puisqu'il était capable de répondre et qu'il était capable de voir et qu'il était capable d'entendre. Ensuite, il instruisit ses disciples et leur expliqua les Écritures, œuvre de la vie intellectuelle. Pour expliquer, il faut faire œuvre d'intelligence. Et ensuite, quatrièmement, enfin, pour que rien ne manquât à la manifestation de sa résurrection, il prouva, et par le miracle de la pêche miraculeuse, et par celui de son ascension, qu'il avait aussi la nature divine. Il entra les portes fermées dans le lieu où ses disciples étaient réunis, et il se déroba tout à coup à leurs yeux, ce qui attestait avec évidence qu'il était revêtu d'un corps glorieux. Alors rien que cet article, je trouve magnifique, parce qu'il montre comment notre Seigneur, qui connaît la nature humaine, qui sait justement toutes les hésitations que nous pouvons avoir, a voulu utiliser tous les arguments qui pouvaient nous toucher pour nous montrer que c'était, qu'il avait vraiment un corps, qu'il avait vraiment une âme, et que c'était vraiment lui, vrai Dieu et vrai homme, qui était ressuscité. Donc croyons en la résurrection, alimentons toujours notre foi à partir des textes de la Sainte Écriture, et puis en venant, comme vous le faites, approfondir cette foi en suivant le catéchisme avec assiduité. C'est très bien. Donc, bonne soirée. Et puis, à moi qui aurait peut-être des questions, non? C'est pas... Oui? Oui? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait, hein. Bien sûr. On peut prendre aussi le Saint-Suaire comme preuve aussi. Le Saint-Suaire comme preuve de la résurrection du Christ aussi, ça, qui est aussi proche de nous. Non. Non, pas incorruptible. Il était parfait, mais pas incorruptible, ça veut dire. Il aurait pu être. Il n'était pas corrompu par le péché, ça c'est certain. Mais il avait une. Un corps composé, par nature, se décompose. Pour qu'un corps ne se décompose pas, il faut qu'il y ait une intervention de Dieu, nécessairement. Ben, si, c'est extraordinaire. C'est possible, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire dans le sens, c'est hors du coordinaire. Justement, c'est pas naturel. Mais c'est pas naturel. Mais parce qu'elle était plus spirituelle, c'est pour ça. Elle avait moins besoin. Parce que noli me tangere, c'est ce que... Bon, après, il y a beaucoup d'interprétations, mais noli me tangere, l'interprétation que font les auteurs spirituels, c'était de dire, justement, j'ai pris maintenant un corps, mais ce corps est un corps glorieux. Et par conséquent, maintenant, ce n'est plus par les sens qu'il faut que tu me touches, mais d'une manière plus profonde, plus spirituelle. Alors après, justement, le lien entre les deux, c'est plus difficile à comprendre. Ouais. Ben, ça veut dire que là-haut, elle pourra le toucher d'une autre manière encore, quoi, sans doute. Parce qu'il paraît que, oui, justement, la semaine dernière, j'étais chez le père Le Carreux, et puis il donnait une autre interprétation. Alors, à partir du texte grec, qui ne voudrait pas dire « ne me touche pas », mais c'est, j'ai oublié le terme. Mais en fait, ce ne serait pas le terme toucher dans le sens palpé, mais ce serait un autre sens, en fait, complètement. Mais apparemment, donc, différents sens sont possibles. Hein, donc, parce que plusieurs auteurs spirituels ont donné donc, l'interprétation que je vous ai donnée, à savoir que le ne me touche pas, ça voulait dire que eh bien, c'était une autre approche du Christ après la résurrection. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les trois âges de la vie spirituelle sont symbolisés à travers le premier âge jusqu'à la passion du Christ. Le deuxième âge, le passage du premier au deuxième âge, c'est la passion justement qui mène à la résurrection, deuxième âge du Christ et de la vie spirituelle. Et le troisième âge, c'est lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres et qui équivaut donc à la vie des parfaits. Et donc comme on est passé d'un âge spirituel à un autre âge spirituel, la façon d'approcher Dieu est différente. La façon d'approcher Dieu d'un jeune converti, c'est justement le côté sensible. Ce qui l'attire, c'est ce côté sensible. Dès lors que le bon Dieu voit qu'une âme lui est bien proche de lui, en ce moment-là, afin justement de l'adorer non plus d'une façon sensible, mais en esprit et en vérité, parce que le bon Dieu veut être adoré en esprit et en vérité, en ce moment-là, il la détache petit à petit des sens pour essayer de lui donner une approche qui est tout aussi réelle, mais plus profonde. Et c'est ce qui explique donc le nolim étant géré, ne me touche pas, parce que maintenant, eh bien, ce n'est plus de cette manière-là qu'il faut m'approcher. Ce qui n'a pas tout le cas, puisqu'elle l'avait touché avant. C'était... Enfin, voilà.